Radio Prague, les informations.
Banque centrale tchèque, taux directeur à son plus bas historique. Victime de violence lors de ses meetings, le Parti social-démocrate change la stratégie de sa campagne électorale. 1945, la fin de la guerre en Bohême, est le titre d'une exposition inaugurée à l'occasion du 65e anniversaire de la libération. La Banque centrale tchèque a baissé jeudi son principal taux directeur d'un quart de point à 0,75%, son niveau le plus bas depuis la création de la République tchèque. Les analystes prévoyaient que la Banque centrale allait laisser son taux inchangé. Cette baisse intervient au moment où les marchés financiers sont perturbés par la crise grecque et les mauvais chiffres d'autres pays de la zone euro, des perturbations qui touchent aussi le cours de la couronne tchèque face à euros et au dollar américain. La police de Brno, qui enquête sur l'incident qui a émaillé le meeting du Parti social-démocrate mercredi à Brno, a entendu l'homme qui s'est attaqué au vice-président du parti, Bohuslav Sobotka. Victime de coups de poing, Bohuslav Sobotka a dû être hospitalisé. L'agresseur est un homme de 48 ans. Un mécontentement de la façon dont était traitée une plainte portée par lui contre la dérégulation des loyers à l'époque où Sobotka était le ministre des Finances serait le motif de son acte. Face à d'autres incidents qui se sont produits dans d'autres villes, le Parti social-démocrate change de stratégie et renonce dorénavant à l'organisation de grands meetings sur les places publiques. Le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, a terminé jeudi sa visite en République tchèque. C'était la première visite d'Abdou Diouf dans un pays observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Durant son séjour, il a notamment eu des rencontres avec le président de la République, le président du Sénat et la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Abdou Diouf a profité de sa visite pour discuter avec les autorités tchèques du programme de formation au français dans l'administration tchèque qui se développe dans le cadre d'une entente signée avec l'OIF. Une exposition intitulée 1945, la fin de la guerre en Bohême, sera inaugurée vendredi à Prague à l'Institut d'histoire militaire. Elle présentera des armes et des uniformes d'époque, des modèles de barricades, des photos, ainsi que des documents inédits des archives de l'armée. Pour le directeur de l'Institut, Aleš Knížek, l'idée était de présenter la vie des Tchèques sous le protectorat, et notamment de montrer l'insurrection de Prague dans le contexte des insurrections de Varsovie, de Paris, de Bratislava et d'autres villes européennes. La première de l'opéra Idoméneo de Mozart, dans la mise en scène du réalisateur japonais installé à Paris, Yoshi Oida, est au programme du Théâtre Pragois des États ce jeudi soir. Vendredi, jour de fête de Stanislav, le temps sera pluvieux, mais les températures devraient remonter quand même avec des maximales autour de 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des faits et événements en République tchèque. La tension monte à moins d'un mois des législatives. Après toute une série d'incidents pendant les meetings du Parti social-démocrate, son vice-président a été victime d'une agression. Les détails en début de ce programme. Une grande exposition à Prague présente des objets issus de la collection de la famille des Liechtenstein. Un événement artistique mais aussi diplomatique. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Enfin, on parlera de la nouvelle pièce française montée au studio Saint-Germain à Prague, une sympathique scène de théâtre spécialisée dans le théâtre contemporain francophone. Bonne écoute à toutes et à tous. Déjà agressive dans sa forme et ses modes d'expression, la campagne qui précède les élections législatives des 27 et 28 mai prochains l'est également devenue physiquement. Plusieurs incidents ont en effet émaillé des meetings du Parti social-démocrate cette semaine. Cette escalade de la violence a atteint son summum mercredi à Brno, où Bohuslav Sobotka, le vice-président de la principale formation de gauche du pays, a été agressé par un homme en état d'ébriété. Un acte condamné par l'ensemble de la classe classe politique, mais qui ne fait pas oublier pour autant que ce sont les têtes d'affiche des partis eux-mêmes qui sont les premiers responsables de cette montée de la tension. Guillaume Narguet.
C'est au cours d'un meeting, comme il s'en tient des dizaines d'autres pendant la campagne électorale, que l'incident s'est déroulé. Alors que Borislav Sobotka, ancien ministre des Finances et bras droit du leader du ČSSD, Jiří Paroubek, venait d'achever son discours, un homme de 48 ans s'est approché de lui sur le podium en faisant mine de vouloir lui parler. Au lieu de cela, c'est un coup de poing que Borislav Sobotka, tête de liste de la social-démocratie pour la Moravie du Sud, dont Brno est le chef-lieu, a reçu. L'agresseur a été immédiatement arrêté par la police et placé en garde à vue. Si les raisons de son geste sont encore inconnues, on sait en revanche qu'il avait 1,8 g d'alcool dans le sang au moment des faits. L'incident a aussitôt provoqué de nombreuses réactions et commentaires, et notamment de tous les leaders des partis politiques. Et si tous condamnent cette agression, aucun d'entre eux n'a non plus oublié de dénoncer l'ambiance délétère de la campagne électorale en cours, à l'image du leader du parti chrétien-démocrate, Cyril Svoboda.
Ce geste est une manière de répondre à la montée de l'agressivité à laquelle nous assistons depuis le début de la campagne électorale. Il suffit de lire les journaux pour s'en rendre compte. Les partis politiques ne communiquent pas sur leur programme, ils se contentent de critiquer et d'attaquer de façon très agressive les autres partis. Et c'est cette agressivité qui entraîne les réactions dont nous sommes actuellement témoins. Je ne pense pas que cette agressivité des gens tombe du ciel. Cela n'enlève cependant rien au fait qu'elle est tout à fait inacceptable et que je la condamne.
Pour la majorité des adversaires de la social-démocratie, principale formation de gauche du pays, qui figure ces derniers mois régulièrement en tête des sondages préélectoraux, la principale responsable de cette montée de l'agressivité est la social-démocratie elle-même, comme l'a regretté Petr Nečas, leader du Parti civique démocrate.
Ce mercredi soir, personne, pas même la social-démocratie, ne sait rien des motivations de l'agresseur. Malgré cela, le Parti social-démocrate a déjà trouvé le temps pour accuser tous ses adversaires politiques et tout le monde, y compris les médias. Je suis convaincu que l'incident d'aujourd'hui ne doit pas être l'occasion de gestes et manifestations politiques vides de sens. Mais je tiens aussi à rappeler que cette agressivité, avec tous les coups bas et toutes les attaques personnelles qu'elle porte en elle, ont été amenées dans cette campagne par la social-démocratie.
De son côté, la social-démocratie, par la voix de son leader très controversé, Jiří Paroubek, a réagi en affirmant que cette agression était une attaque contre la démocratie et la liberté dans le pays, mais il a surtout mis de l'huile sur le feu en assurant que son parti faisait l'objet d'une campagne de haine menée par les médias de droite du pays et le Parti civique démocrate, dans ces conditions difficiles donc, à 3 semaines du scrutin, d'imaginer la tension retombée.
Tableaux, statues, mobilier d'époque et porcelaine fine de la première moitié du XIXe siècle, voilà ce que les visiteurs du manège du palais Wallenstein à Prague peuvent voir à partir de ce jeudi. Tous ces objets font partie des collections de la famille princière des Liechtenstein. L'exposition n'a pas cependant qu'une valeur artistique. Elle est aussi un signe du rapprochement entre la principauté du Liechtenstein et la République tchèque. Václav Richter.
Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les rapports entre le Liechtenstein et la Tchécoslovaquie étaient plus que froids à cause de la confiscation d'immenses biens de la famille sur le territoire tchèque en vertu des décrets du président Beneš au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La principauté n'a même pas reconnu la République tchèque après la partition de la Tchécoslovaquie en 1993. Les relations entre les deux pays ne se sont améliorées qu'au cours de ces dernières années, et ce n'est qu'à l'automne de 2009 que le Liechtenstein et la Tchéquie ont établi des relations diplomatiques. Aujourd'hui, les deux parties désirent donc mettre l'accent sur ce qui les unit et non pas sur ce qui les sépare. Le prince Hans Adam II de Liechtenstein lui-même est venu à Prague pour inaugurer l'exposition du palais Wallenstein.
L'exposition n'a été rendue possible que par la normalisation des relations bilatérales entre la Tchéquie et le Liechtenstein, des relations rompues en 1938 par l'occupation de la Tchécoslovaquie par le Troisième Reich. C'est un pas important vers une nouvelle coopération. Nous préparons d'autres projets et je suis très content que ce soit possible aujourd'hui.
Geplant und ich freue mich, dass das jetzt möglich ist. L'année dernière, déjà, Hans Adam II a déclaré que sa famille n'envisageait pas de prendre une initiative pour recouvrer ses biens en Tchéquie, sans cacher cependant que le Liechtenstein aimerait bien reprendre la possession de ses anciennes propriétés et y investir des sommes importantes. Outre la signification politique, l'exposition placée sous le haut patronage du premier ministre tchèque Jan Fischer et du chef du Sénat Přemysl Sobotka a aussi une importante dimension artistique et culturelle. Elle réunit notamment une excellente collection de portraits, de paysages et de tableaux de genre signés par les meilleurs peintres viennois de la première moitié du XIXe siècle, dont Heinrich Füger, Friedrich Amerling, Peter Fendi ou Ferdinand Georg Waldmüller. Selon le conservateur du musée des arts et des métiers de Prague, Radim Vondracek, leurs œuvres illustrent bien le passage entre le classicisme et le nouveau style qu'était le Biedermeier.
En ce qui me concerne personnellement, j'admire certains petits portraits de Friedrich Amerling qui a peint les petites princesses de Liechtenstein, les filles d'Aloïs II. De même, les aquarelles ou les petites peintures à l'huile de Peter Fendi se classent parmi les œuvres qui n'impressionnent pas le spectateur par leur dimension. Ce ne sont pas des œuvres représentatives, mais au contraire des tableaux très intimistes qui témoignent que le Biedermeier a apporté une nouvelle atmosphère. Aux grands gestes et poses représentatives, le Biedermeier préférait le monde naturel et normal de l'homme.
Et Radim Vondracek de souligner que cette exposition démontre d'une très belle façon une certaine dualité des œuvres créées à l'époque pour une des plus grandes familles aristocratiques d'Europe. D'une part, des portraits officiels monumentaux et d'autre part, des esquisses intimistes saisissant la vie quotidienne de petites princesses au château de Legnice, l'un des châteaux confisqués au Liechtenstein après la Deuxième Guerre mondiale.
Burn, Baby Burn, c'est le nom de la toute nouvelle pièce du répertoire du studio Saint-Germain, la scène de théâtre du Rock Café à Prague, spécialisée dans la mise en scène de pièces francophones. Écrite par Karine Lacroix, la pièce est un huis clos entre deux puis trois personnages. Deux adolescentes paumées, Irip et Violette, vont se rencontrer et apprendre à se connaître avant que leur fragile équilibre ne soit perturbé par l'arrivée d'un livreur de pizza. Une pièce qui évoque irrésistiblement une sorte de Thelma et Louise. Karine Lacroix replante pour nous le décor.
Alors c'est une histoire qui se passe dans une station essence désaffectée où deux filles vont se rencontrer. Il y en a une qui apparemment vit là et une autre qui débarque comme ça. C'est un peu au milieu de nulle part. Elle est en transit. Elle va aller dans le village voisin. Et puis donc c'est l'histoire de cette rencontre en fait.
Et de ce qu'elle va apporter au fur et à mesure de la découverte de l'une et l'autre.
Deux personnes qui sont qui ont comme point commun leur âge, mais sinon qui sont assez différentes, puisqu'il y en a une qui est un peu, on pourrait dire, homeless, puisqu'elle n'a pas d'attache, elle vit là. Et l'autre qui vient du patelin voisin, qui est un peu bloqué dans sa vie, qui trafique un peu de la drogue, qui a des histoires avec
des dealers
en l'occurrence un, et qui est pas très à sa place aussi.
Voilà. Finalement, en commun, elles ont aussi la marginalité.
Ouais, pas tout à fait la même parce qu'il y en a une qui a plus d'expérience, notamment avec avec la vie concrète, on pourrait dire, la drogue, le boulot. Il y en a une qui travaille, donc. Et puis les hommes, alors que l'autre, apparemment, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Et donc, et il y en a une qui a, celle qui habite dans la station essence, qui a, justement pour combler un manque affectif, qui s'invente des histoires pour avoir l'impression d'exister.
On sort de la pièce, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène
J'ai trouvé que c'était très, très vivant et j'ai beaucoup aimé parce que, déjà, les comédiennes correspondent bien à l'âge et j'ai vu tellement de versions différentes, notamment celle qui a été montée à Paris où un des personnages avait une quarantaine d'années. Donc, c'était un parti pris de la metteur en scène. Et j'étais très frustrée et je trouvais que ça dénaturait le propos parce que elles ont une jeunesse et elles disent des choses de leur âge. On ne peut pas ne pas avoir embrassé quelqu'un
à 40 ans,
par exemple. Donc j'ai trouvé que C'était très, très intéressant et la musique aussi.
Et pour ce qui est un peu du décor, de la mise en scène avec voilà cette vieille pompe à essence, cette vieille moto, les murs un peu en tôle qui sont tapissés de vieux posters.
Ce que j'ai beaucoup aimé c'est dans les costumes, les traces de saleté, de sueur, parce que c'est censé se passer en pleine chaleur et on ressentait ça beaucoup. Et donc ça j'ai bien aimé parce que je l'ai rarement senti. Donc là, ça m'a bien plu. Le personnage qui est pieds nus, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ça n'a pas toujours été respecté. Ça, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien que le personnage principal soit pieds nus.
Oui, on imagine bien, finalement, par votre texte et par la mise en scène, comme vous dites, qui fait ressentir un peu toutes ces choses très... de l'ordre de... Oui, des sensations, en fait. On voit comme les peaux cuisent, finalement, au soleil. Et comme les gens. Alors, c'est pas les gens, c'est elle. Cette fille qui est un peu paumée dans sa station essence, finalement, est un peu accablée par sa vie, par le soleil et par la chaleur.
Quoi, voilà. Parce que, mine de rien, cette chaleur empêche la fille de partir.
De bouger.
Effectivement,
de bouger,
il fait chaud, donc voilà, elle est en rade, donc ça veut dire qu'elle va rejoindre le patelin qui est peut-être à 5 km à pied, donc la chaleur est assez importante.
Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec Karine Lacroix dimanche dans Culture sans frontières.
Radio Prague, Radio Tchèque 7 annonce la 10e édition de son concours annuel destiné à ses auditeurs. Écrivez-nous quel écrivain tchèque ou quel livre tchèque vous a le plus marqué et pourquoi. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour à Prague d'une semaine pour deux personnes. Les autres participants recevront des prix de valeur et des souvenirs. Les meilleures réponses seront annoncées dans nos émissions et sur notre site internet www.radio.cz les 26 et 27 juin. Envoyez vos réponses avant le 15 juin 2010 à l'adresse suivante Vinohradská 12 120 99 Prague, République tchèque ou par courriel à l'adresse suivante cr@radio.cz. Le premier prix pour le vainqueur est offert par Park Hotel, sponsor du concours. Park Hotel Prague, un lieu où le confort se marie à l'histoire, à la qualité et au design moderne à proximité du centre de Prague.
C'est la fin de cette édition des faits et événements en République tchèque. Tout de suite, retrouvez le miroir de la société avec Alena Gebertova.
Miroir de la société, Alena Gebertova.
Aujourd'hui, on parlera des sections tchèques du lycée Carnot de Dijon et du lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Leur création remonte au début des années 20. À l'occasion de la récente remise à Prague du prix Gracias Agit à ces deux lycées français, Radio Prague a pu s'entretenir avec Madame Utira Giraudot, proviseur du lycée de Nîmes, sur la longue histoire et le présent d'une aventure qui dure depuis longtemps et qui perdure, en dépit des entraves et des interruptions qu'elle a connues.
Je crois que l'histoire de la section tchèque, eh bien, elle est l'histoire, finalement, de l'histoire de l'Europe. C'est toute l'évolution des cultures, des politiques, des mentalités que cette histoire traduit. Dire qu'elle a été difficile, non. Ce que nous avons découvert, ce sont des jeunes qui avaient vraiment envie de se tourner vers l'Ouest et nous étions très heureux de pouvoir leur offrir cette culture qu'ils choisissaient. Ils ont fait le choix non seulement de venir apprendre des langues vivantes, de l'économie, des mathématiques, mais ils ont fait un choix qui va un peu au-delà et nous essayons ensemble, depuis 90, de construire, d'instruire des cadres qui auront bientôt, nous l'espérons, une double culture, à la fois une culture française et une culture tchèque. Ça devrait nous permettre d'avoir à l'avenir, c'est aussi ce que fait Dijon, et bien des cadres qui auront cette double façon de voir les choses, et peut-être cela sera-t-il plus facile de bâtir l'Europe dans ces conditions avec des gens qui comprendront et leur pays d'origine et leur pays d'adoption.
pour vous-même, est-ce un défi intéressant ?
Oui, c'est un défi intéressant parce que je me suis rendu compte, je ne suis proviseur de ce lycée que depuis 2006, mais déjà j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de me battre pour la section tchèque et de trouver des solutions. Car nous, Français, nous sommes un peuple sûrement très valeureux, très courageux, très ambitieux, mais nous avons parfois une faculté d'oubli qui est troublante. Et il a fallu, oui, déjà depuis 2006, trouver des solutions pour trouver des postes pour le professeur, rappeler quelques règles sur le fonctionnement de la section. C'est un défi, mais c'est un défi qui en vaut la peine.
Et quels sont les enfants tchèques, d'après vous, qui ont envie d'aller étudier à Nîmes ?
Alors, du point de vue social, nous avons des élèves de milieux très différents. Ce sont parfois des enfants du milieu favorisé qui connaissent l'existence de la section tchèque. Mais l'ambassade de France fait un gros travail d'information, si bien que maintenant le recrutement se fait sur des lycées très nombreux en République tchèque qui relèvent vraiment de toutes les régions, Moravie, Bohême, toutes les régions sont concernées. Et je crois que c'est une richesse pour la section tchèque que de recruter très largement, pas uniquement sur Prague, et de recruter aussi dans toutes les régions de la République tchèque. C'est quelque chose qui est en train de se développer, donc il y a une diversité sociale et nous y tenons beaucoup. C'est quelque chose une chose à laquelle il faudra veiller, et une diversité aussi par l'origine géographique des élèves.
Qu'est-ce qui est d'après vous le plus difficile pour un enfant tchèque qui vient à 14 ans, à 15 ans à Nîmes ?
Mais d'abord, il faut vivre en internat, ce qui est quelque chose de très nouveau pour eux. Ils quittent leur famille. Mais nous avons quand même une chance très particulière. Le Conseil régional Languedoc-Roussillon a accepté en 2004 de construire un internat qui leur est dédié, avec une cuisine, avec un salon, donc des chambres individuelles. Ces jeunes filles vivent dans des conditions de confort. Alors, bien sûr, c'est difficile parce que nous sommes du midi de la France, donc des gens avec beaucoup de spontanéité, mais nous sommes bruyants, peut-être moins organisés que dans d'autres régions, enfin que sais-je. Je crois que le plus difficile, c'est dans un premier temps la rupture avec la famille, mais qui est assez bien compensée par le fait que ces jeunes filles vivent entre elles, avec la gentillesse du professeur assistant tchèque qui sert de sœur aînée de substitution. Et puis, nous sommes un certain nombre à veiller sur elles et à leur santé et à leur adaptation dans une région. Mais les jeunes filles qui viennent sont, on le voit bien au moment des entretiens, totalement déterminées à venir voir comment vivent les Français, comment fonctionne notre pays, comment fonctionnent des personnalités. Elles sont prêtes à côtoyer des gens différents. Donc ça fait partie des critères de recrutement. Elles ont fait un choix et elles sont souvent très déterminées dans leur choix.
Suivez-vous parfois le parcours de vos anciens étudiants tchèques ?
Alors, on suit le parcours de tous nos élèves tchèques, parce que non seulement nous les gardons dans le second degré, mais nous leur proposons, si elles le souhaitent, de rester faire leurs études après le baccalauréat dans l'établissement, puisque le lycée d'Odé est un lycée avec des classes préparatoires. Actuellement, nous en avons deux qui sont en train de préparer des concours des écoles normales supérieures littéraires pour l'une et école d'ingénieurs scientifique pour l'autre, mais nous restons en relation avec elle et nous savons qui est devenu, qui fait des études de médecine, qui fait des études de droit, qui s'est lancé dans la diplomatie. Et d'ailleurs, grâce à un professeur du lycée qui s'appelle Annie Petit, nous avons un annuaire des anciens élèves et nous savons qui ils sont et ce qu'ils sont devenus.
Cette présence d'étudiants tchèques constitue-t-elle aussi un enrichissement, un apport pour les étudiants français ?
Oui, parce que les Tchèques ont d'autres habitudes de travail et c'est toujours très intéressant pour nos élèves français que de voir avec quelles habitudes arrivent les Tchèques. Habitués à travailler beaucoup plus longtemps et avec plus de constance que les nôtres, bien souvent, avec des capacités d'adaptation bien plus importantes que nos élèves français. Et c'est ce que j'essaie personnellement d'approfondir dans l'accueil des professeurs tchèques au lycée, puisque j'en suis maintenant à l'accueil de 12 enseignants en 3 ans dans mon établissement, de façon à ce qu'il y ait des comparaisons entre les méthodes des uns et des autres. Donc oui, c'est un apport non seulement pour les Tchèques, mais nous recevons, nous en tant que Français, beaucoup, parce que nous sommes confrontés à des modèles d'apprentissage différents, avec des jeunes filles qui arrivent avec souvent la pratique d'un instrument de musique, la pratique d'un sport, alors que nous avons tendance en France à tellement vouloir rationaliser les choses que nous savons peut-être fabriquer une élite très intellectuelle, très brillante, ça je le concède, mais nous avons du mal à associer et le corps et l'esprit, alors que les Tchèques y arrivent tellement mieux que nous.
Cette année, le lycée Alphonse Daudet de Nîmes a accueilli 12 lycéennes et le lycée Carnot de Dijon 20 lycéens tchèques.
Les émissions en français de Radio Prague sur les ondes, c'est terminé, mais évidemment, l'info continue sur le web au www.radio.cz. N'oubliez pas de participer à notre concours dont les modalités et le thème vous ont été décrits dans cette émission. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.